Chapitre 4 Le départ. Banni de la cour de son père, seul au milieu d'une cour étrangère aux affections de son enfance, on eût pu croire que Lodowig se repentait avec regret vers les objets aimés dont il était séparé et que son âme ambitieuse aspirait secrètement à ressaisir le pouvoir qu'on avait arraché de ses mains. Il fuyait la chasse et les festins bruyants. Il se montrait rarement dans les fêtes. On le voyait souvent se perdre sous les allées ombreuses de la forêt pour ne reparaître que le soir bien tard à la table du comte d'Erec. Là, entre le vieux comte et Pialla, il semblait oublier qu'il avait une autre patrie et que des destinées brillantes l'attendaient peut-être dans une contrée lointaine. Il racontait au vieillard les terribles batailles auxquelles il avait assisté, et le vieillard disait à son tour les combats de géants que s'étaient livrés de son temps les Bretons et les Danois. Pialla, qui s'abandonnait naïvement aux délicieuses impressions d'un amour pur, écoutait les récits du jeune et du vieux guerrier, et semblait oublier, elle aussi, que sa main était promise à Alain, et que jamais sans doute sur cette terre, le sentiment qu'il éprouvait ne trouverait sa satisfaction. Huldowig sentit enfin sa fausse position vis-à-vis de ses hôtes. Peu à peu, l'image d'Oella s'était éloignée, et il l'avait vue se dresser tout à coup devant lui, au moment où il y pensait le moins. Oella avait perdu sur son esprit la puissance d'un souvenir, elle n'avait plus que celle d'un remords. Lodowig ne se demanda pas en vain la cause de ce changement. Il devina bientôt que Pialla n'y était pas étrangère et résolut presque aussitôt de s'affranchir pour toujours de ce nouveau sentiment qui menaçait de s'emparer de lui. Son projet fut sur le champ arrêté et quelques jours après la scène que nous avons racontée, il se présenta à elle. Celle-ci ne s'attendait pas à le voir. Elle rougit et baissa les yeux. Pialla, dit Huldowig en s'avançant d'un pas assuré, je viens vous dire adieu. Vous partez, dit-elle. Je pars, répondit Huldowig. J'ignore vers quelle terre hospitalière je porterai mes pas, mais je ne veux point rougir plus longtemps de mon indigne repos. Et avant de mourir, j'espère que mon nom méritera encore une fois d'être chanté par les bardes de ma patrie. « Vous partez ?» répéta Pialla atterré. « Oui, par-delà vos montagnes, reprit Lodowig, bien loin d'ici. Il y a un pays fertile, baigné par un large fleuve et habité par des guerriers redoutés. C'est là que je suis né. Mon père y possède d'immenses domaines sur lesquels je dois régner un jour. » 1000 souvenirs s'attachent au sol où l'on a vu le jour. C'est cette contrée, c'est mon père que je veux revoir. C'est aussi, vous le dirai-je, la femme aimée que j'y dois retrouver. Pialla garda le silence, mais un mouvement convulsif agita ses membres. Elle posa ses bras sur son cœur brisé et levant enfin vers Lodowig et ému ses deux grands yeux noirs, « Je l'avais prévu, dit-elle en essayant de raffermir sa voix tremblante. Cela devait être. Vous étiez étranger. Un jour devait venir où l'amour vous rappellerait vers votre patrie. Moi qui ai vu le jour sous un autre ciel, qui ne tient à ce pays que par un faible lien qui sans doute va se briser bientôt, je comprends la puissance des regrets qui vous font éloigner pour toujours de ce que vous avez à peine connu. » Elle s'interrompit un instant et reprit avec plus de force. « Allez donc, Lodowig, oui, quittez à jamais cette terre sauvage dont le soleil détourne ses regards. Allez vers les contrées où vous comptez de nombreux vaisseaux. Et si les prières d'une femme peuvent appeler sur votre front les bénédictions du ciel, de grandes joies vous seront réservées et vous vivrez de longs jours au pays de vos pères. » Puis elle ajouta, avec moins de fermeté, cette fois et en lui tendant la main, « Adieu encore une fois. » Adieu, au milieu des nouvelles destinées qui vous sont offertes, souvenez-vous de votre séjour parmi nous et pensez quelquefois à ceux qui ne doivent plus vous oublier. » En ce moment, de joyeuses fanfares retentirent dans la cour de la ferme, et Lodovig s'arracha du lieu de cette scène douloureuse pour aller rejoindre le comte Erec. Cependant, en quittant Pialla, il obéissait plutôt à un mouvement de curiosité qu'à toute autre pensée. En effet, la fanfare qui venait de retentir avait réveillé dans son cœur un écho depuis longtemps endormi. Il lui sembla l'avoir déjà entendu à la cour de son père. C'était comme la voix du passé qu'il arrachait tout à coup aux préoccupations du présent. Le fils du comte Erec, averti de son départ, avait-il voulu le saluer du bruit de cette fanfare, comme d'un homme adieu fait à un hôte aimé? Ou bien était-ce simplement le hasard? Toujours est-il que Lodovig arriva, le cœur plein d'émotion, à la porte de la grande salle, où l'attendaient le comte, son fils Alain et une foule de guerriers bretons, leurs vassaux. Un spectacle singulier frappa alors ses regards. Le comte Erec était assis au milieu de la salle, ayant à sa droite son fils et à sa gauche le juge de la cour. Derrière eux se tenaient, debout et découvert, les vassaux de leur domaine, revêtus chacun des insignes barbares de leur dignité respective. En face de ce groupe imposant, quatre seigneurs, qu'à leur costume Lodovig reconnut pour des guerriers francs, étaient assis dans une attitude respectueuse. Tous gardaient le silence, attendant sans doute l'arrivée d'un personnage important. À l'aspect de cette assemblée vénérable, Lodovig s'arrêta sur le seuil de la porte, indécis s'il devait avancer ou demeurer à sa place. Mais le vieux comte avait déjà descendu les marches de l'espèce de trône sur lequel il se trouvait, et allant à lui, il dit en le présentant au seigneur franc : « Seigneur, voici Lodovig lui-même, le fils de votre maître, celui que vous êtes venu chercher dans ma demeure. Il est noble et brave, éprouvé par l'adversité. Il a retrempé son âme dans l'exil et vous le retrouverez digne de monter sur le trône de son père. » Les quatre seigneurs s'inclinèrent à la fois devant Lodovig, et le plus âgé d'entre eux, ayant pris la parole, raconta alors comment le père du jeune chef franc était mort dans un combat nocturne livré contre les Burgondes. Puis il ajouta: « Lorsque ton père eut rendu le dernier soupir, les chefs les plus renommés par leur courage se réunirent autour de son corps et convinrent que quelques-uns iraient vers toi après les funérailles et que tout serait disposé pour te recevoir dignement. On se souvient encore de ta valeur, on sait que malgré ta jeunesse, tu as laissé un nom redouté de nos voisins. Dès que les funérailles eurent été achevées, nous sommes venus, ainsi qu'il avait été dit. D'autres sont allés vers elle, la fiancée de ton cœur, et tu la retrouveras au lieu que tu as quitté. Reviens donc avec nous, Lodovig. Tu seras honoré comme ton père l'a été, et tu commanderas, comme lui, au riche pays qu'il a conquis sur ses ennemis. » Lodovig regardait son interlocuteur avec stupéfaction. Tout ce qu'il voyait n'était point un rêve. C'était bien un guerrier franc qui lui parlait. Il le reconnaissait à la fois au costume et à l'idiome de la nation. Il venait bien de la part de ses amis, puisqu'il avait parlé d'Oella et de son père. Cependant, il ne pouvait croire que tout cela fût vrai. Il craignait qu'il y eût, sous ce dehors plein d'aménité, quelque dessein caché. Et pour s'assurer d'une manière certaine que ces hommes étaient mus par des sentiments sincères d'affection, et qu'ils s'acquittaient d'une mission dont on les avait véritablement chargés, il leur dit: « Si vous êtes réellement envoyé par Oella et par les amis de mon père, prouvez que vous ne me trompez pas et que vous dites la vérité. En croiras-tu l'anneau d'Oella et l'épée de ton père ?» demanda le plus vieux. Je les en croirai, dit Oldovig. Et comme on lui présentait l'anneau et l'épée, Oldovig les saisit avec une émotion haletante. Oh, mon père, s'écria-t-il, oh là! Tous les spectateurs de cette scène n'osèrent ni élever la voix ni faire un pas. Chacun respectait la douleur dont il était accablé. Cependant, le vieux guerrier Franck s'approcha de lui. « Oldovig, dit-il, te suivras-tu maintenant ?»« Oh, dit Oldovig avec enthousiasme, voilà bien l'anneau d'Ella, oui, voilà bien l'épée de mon père. Partout où brilleront cette épée et cet anneau, j'irai. » Puis se tournant vers le comte Erec, « Comte, lui dit-il, voici des guerriers qui vont m'escorter au pays des Francs. Pour votre royale et votre hospitalité, merci, merci. Et si dans l'avenir, le secours de quelques guerriers hardis et courageux vous est nécessaire, rappelez-vous que vous avez en moi un ami généreux et dévoué. Mon fils, repartit le vieux comte, ne parlez pas d'avenir à un vieillard dont les jours sont comptés et qui ne verra peut-être pas se coucher le soleil qui se lève en ce moment. Vous êtes au commencement de la carrière que je terminais, mes pieds sont poudreux et je suis loin de la route. Allez donc où la jeunesse, les plaisirs et les combats vous convient. Marchez droit dans le chemin que vous avez à parcourir. Allez devant vous sans trop regarder ce que vous laissez derrière. Le regret ne doit pas naître à votre âge. » Ludovic s'adressa alors au fils. « Alain, lui dit-il, je vais combattre les ennemis de mon père. Ils ont de nombreux troupeaux et nous leur enverrons de riches dépouilles. Si ces expéditions lointaines ne tendent votre courage, venez avec moi. Et je vous le jure, la place que vous occuperez sera digne de votre valeur. » Le regard d'Alain s'alluma à cette proposition, mais il se contint aussitôt et réprimant ce premier mouvement. « Je combattrai les ennemis de mon père et les miens, répondit-il. Je défendrai notre pays de l'Armor, et si les dépouilles que j'enlèverai à mes ennemis sont moins riches que celles dont vous parlez, du moins non, je ne quitterai pas le pays de mes ancêtres, et je mourrai là où ils sont morts. » Un festin somptueux fut aussitôt servi, et dès que les préparatifs du départ furent terminés, de nouvelles fanfares se firent entendre, et Ludovig et ses compagnons, ayant salué leurs hôtes, montèrent à cheval et s'éloignèrent. Puis Allah les suivit longtemps du regard, jusqu'à ce qu'enfin il les eût vus disparaître, prenant la voie romaine qui conduisait vers Caraès. Chapitre 5. La fuite. Depuis longtemps, Ludovig avait salué des hôtes des montagnes d'Arès, et puis Allah était tombée dans une sombre tristesse dont rien n'avait pu la distraire. Elle semblait avoir renoncé au commerce de ce monde et ne voyait plus que rarement le comte Erec et son fils Alain. Le comte vieillissait chaque jour davantage, et Alain lui-même, soit ennui, soit dégoût de la vie qu'il menait, soit impatience ou désir d'une plus noble destinée, avait interdit les bruyantes orgies de la ferme et les chasses plus bruyantes encore. Les chants sont demeurés oisifs, étonnés de ce changement subit, et Gwenaël murmurait tout bas, oubliant quelquefois de demander sa coupe de cervoise aromatisée. On était alors au commencement de l'été. Les feuilles poussaient aux arbres comme par enchantement, l'herbe verdissait dans les champs, les épis blonds couvraient les collines, mille oiseaux voyageurs chantaient sous la feuillée leurs folles chansons de joie et d'amour, et des troupeaux nombreux, conduits par les cerfs attachés à la glèbe, allaient peuplant le désert des montagnes. Depuis quelques jours, la santé du comte Erec donnait à ses vassaux de sérieuses inquiétudes. Le chapelain ne quittait pas l'autel où il adressait de ferventes prières à Dieu, et Alain et Piala se réunissaient au chevet du vieillard, s'attendant à chaque instant à s'en séparer pour toujours. Bien que cette mort dût assurer à Alain le titre de comte et la jouissance de riches domaines dans le Bruerec, nous devons dire cependant qu'il ne voyait qu'avec une douleur profondément sentie son père près de descendre dans la tombe. Les conseils et l'expérience du vieillard l'avaient souvent aidé dans des circonstances critiques. Il ne pouvait oublier ni sa bonté, ni son courage, ni l'amitié qu'il lui avait toujours portée. Quant à Pialla, ce n'était point seulement avec douleur qu'elle voyait la vie du comte s'éteindre. Un puissant sentiment d'épouvante s'était emparé d'elle dès qu'elle avait acquis la certitude de l'imminence du danger que courait son oncle. Depuis ce moment, son imagination effrayée ne cessait de sonder les profondeurs incertaines de l'avenir que la mort du comte allait lui offrir. Souvent, alors, le souvenir Holdovig se présentait à elle, mais c'était encore pour son cœur de nouvelles tortures sous lesquelles elle se débattait en vain. Elle se rappelait tout à coup le nom d'Oella, et ce nom soulevait dans son sein une tempête désordonnée qui s'exhalait en larmes impuissantes. L'amour est le courage des femmes, a dit quelqu'un. Pialla, malgré la réalité du malheur qui la menaçait, ne s'abandonna pas au désespoir. Un secret et vague pressentiment la soutenait encore dans ses incertitudes. Elle rassembla toutes ses forces et lutta courageusement contre sa propre douleur. Un soir, le soleil disparaissait lentement derrière les hautes montagnes, sur lesquelles, à voir la teinte rougeâtre dont elles étaient colorées, on eût dit que l'astre roi eût laissé flotter un pan de son manteau de pourpre. Le calme se faisait dans les solitudes âpres et désertes, et l'ombre descendait peu à peu, s'allongeant dans la plaine. On n'entendait plus, à de rares intervalles, que le cri aigu des pâtres ou le mugissement plaintif du bétail qu'il ramenait à l'étable. Une jeune femme et un vieillard venaient de s'arrêter sur la route des Gaules, non loin de la demeure de Kerlou, et leurs regards, également fixes, cherchaient à distinguer les objets à travers les fenêtres qui envahissaient déjà la ferme. Autour de l'habitation passaient de temps à autre des torches dont la lueur sanglante traçait dans l'ombre de lumineux sillons, et ce singulier spectacle paraissait vivement intéresser nos deux personnages. Ils suivaient avec une anxiété poignante la scène qui se passait à quelque distance, sans s'adresser une parole, livrés sans réserve aux impressions qu'elle faisait naître en eux. En ce moment, un grand nombre de valets, portant chacun une torche à la main, sortirent de la ferme et défilèrent en ordre en se dirigeant vers la forêt. Le chapelain venait ensuite, puis quelque chose ayant la forme d'un cercueil, puis enfin Alain, suivi de la foule des guerriers bretons, tous revêtus d'habits de deuil. Le vieillard leva les bras au ciel, et la jeune fille se laissa tomber à genoux en joignant les mains et en priant. « Ô Dieu !» dit le vieillard d'un ton solennel, « Dieu qui présidez aux destinées humaines, vous venez de mettre fin à une existence pleine de valeur et de courage. De la nouvelle vie qui va commencer pour lui, qu'il reçoive donc la récompense de sa bravoure. Qu'il soit regretté des siens et que la pierre du tombeau soit légère à sa cendre. Qu'au-delà de ce monde d'épreuves, il trouve un monde meilleur. Que les bardes rappellent sa mémoire dans leurs champs de guerre et que la postérité garde de lui un grand et sacré souvenir. « Mon Dieu, dit la jeune fille, il a veillé sur mon enfance, il a été pour moi un père bon et indulgent, il m'a entouré de soins et d'affection, c'est lui qui m'a fait aimer la vie, qui m'a consolé, qui m'a soutenu. Vous le savez, mon Dieu, il a été bon entre les meilleurs généreux, entre les plus généreux, sa jeunesse fut noble et courageuse, sa vieillesse douce et pleine de vertus. Vous l'avez rappelé à vous, ô mon Dieu. Il se souviendra sans doute là-haut de ce qu'il a laissé sur cette terre, et il vous priera pour que vous détourniez de leurs lèvres le vase d'amertume et de fiel. Laissez sa prière monter jusqu'à vous, mon Dieu, et abaissez sur les malheureux qui souffrent votre regard de bonté. » Le cortège avait passé, puis Allah et le druide reprirent leur chemin et s'éloignèrent de la ferme. Où allaient-ils ainsi tous les deux, à travers la nuit, errant presque au hasard, sans but certain et vivant de l'hospitalité, l'un trop vieux, l'autre trop jeune, pour supporter de longues fatigues? Qu'allait-il chercher dans des pays lointains? Pourquoi fuyait-il avec tant de hâte une contrée dans laquelle il laissait un ami à peine mort? Le vieillard craignait le passé, la jeune fille craignait l'avenir. Ils marchèrent ainsi l'un à côté de l'autre, gardant le silence, profondément émus tous deux, et puis Allah jetait souvent en arrière un regard plein de larmes. « Vous pleurez, lui dit enfin le druide, à peine avez-vous mis le pied dans la longue route que vous allez parcourir, que déjà le regret entre dans votre cœur, et voilà que le courage semble vous abandonner aux premières douleurs. » « Oh, je serai forte, répondit Piallah. Dieu qui nous a créés a mis au cœur de l'homme et de la femme un grand courage, afin qu'ils puissent, pendant le trajet de cette vie, porter le souvenir qui pèse sur leur mémoire. Quel souvenir, mon enfant, et celui du ciel qu'ils ont quitté. » Cependant, la nuit avançait à grands pas, et il pouvait être imprudent de s'aventurer à pareille heure dans les chemins dangereux où ils s'engageaient. Ils demandèrent l'hospitalité dans le premier gîte qu'ils rencontrèrent. Le lendemain, avant de reprendre leur route, le druide voulut consulter le destin et s'étant fait apporter une branche d'arbre couverte des premiers fruits vermeils de l'été, il la coupa en 8 morceaux de figures symboliques qui jeta pêle-mêle dans une robe blanche préparé pour les recevoir. Piallah assistait à cette cérémonie avec un saint recueillement. Dans sa pensée naïve, elle croyait même sincèrement à la véracité des résultats que le mage déduisait des circonstances avec lesquelles les morceaux de la branche prophétique se présentaient en sortant de la robe. « Mon père, dit-elle au druide, quand la cérémonie fut terminée, « que vous ont dit vos dieux, et quelle destinée vous prédisent-ils ? » « Bon enfant, répondit le vieillard, l'avenir est incertain, et le mage se trompe quelquefois. Ayez confiance dans les dieux de vos ancêtres, ils vous accorderont enfin la paix et le calme dont votre cœur a tant besoin. » Piallah pensa à Ludwig, et elle suivit le druide en soupirant. Chapitre 6 et dernier, l'Église. Mon père, ne voyez-vous point autour de nous quelque habitation où nous puissions nous reposer un instant?
J'aperçois à quelque distance, mon enfant, un de ces monuments élevés par la main des prêtres de la nouvelle religion.
Mon père, voulez-vous que je vous y conduise? Mais vous-même,
on entrerait sans crainte avec vous dans cette enceinte qu'ils disent sacrée, au pire là. La vieillesse est respectée avec toutes les régions.
Piallah était arrivée avec le druide non loin de Nantes, et elle descendait maintenant les bords de ce grand fleuve dont Ludovic lui avait parlé. Selon les pressentiments de son cœur, le pays auquel il commandait ne devait pas être loin, et bientôt peut-être elle allait encore une fois le revoir. Le lecteur trouvera sans doute étrange qu'une jeune fille et un vieillard se soient pour ainsi dire enfuis de leur patrie pour aller à la recherche d'un guerrier inconnu dont la jeune fille gardait l'amoureux souvenir. Quelques mots suffiront à expliquer leur conduite. Et d'abord, Piallah ne cherchait pas Ludovic, elle fuyait Allah. Elle n'ignorait pas que le fils du comte Erec, une fois débarrassé des soucis que lui avait suscité la mort de son père et la prise de possession de ses domaines, ferait des tentatives pour découvrir la retraite de sa fiancée. La Bretagne n'était donc pas un lieu d'asile assez sûr. Elle s'y trouvait trop à portée de sa colère pour espérer y demeurer en paix. Les Gaules s'offrirent à elle naturellement et elle y alla. Et elle y alla, obéissant peut-être à une secrète impulsion de son cœur, mais bien certainement sans préméditation, sans arrière-pensée. Quant aux druides, nous l'avons dit, la Bretagne, devenue terre chrétienne, dépouillée par les conciles des monuments de son antique religion, ne pouvait plus être pour lui un abri assuré. Chaque jour, la cognée civilisatrice des prêtres du Christ jetait sur le sol les chênes vigoureux et les meuliers gigantesques. Le druide devait se soustraire au spectacle navrant de cette dévastation. Et quand Pialla, la fille de son choix, va lui offrir une fuite commune, cette offre répondait si bien à ses propres désirs qu'il accepta avec une sorte de reconnaissance. Le pays de Chartres et ses environs étaient à cette époque le lieu des réunions du culte druidique. Et c'est en cet endroit qu'il résolut de s'arrêter. Là, du moins, la mort lui paraîtrait moins amère, puisqu'il devait y trouver des prêtres de sa religion. Ils se dirigèrent vers le monument qu'il avait indiqué à Pialla, et un moment après, tous deux entrèrent dans la chapelle. On célébrait l'office divin. Les prêtres allaient et venaient, revêtus de leurs vêtements blancs, les cierges étaient allumés, l'encens brûlait sur l'autel, et le chant grave et lent des psalmodies chrétiennes retentissait sous les voûtes sonores de l'édifice. Les assistants, placés autour du chœur, dans la nef et des deux côtés du transept, priaient pieusement, agenouillés, les mains jointes, le Dieu dont on rappelait en ce moment le sublime sacrifice. L'église était pleine de soldats et de peuples. Tous, silencieux et recueillis, se confondaient dans une seule et même pensée pieuse. Ce spectacle grandiose toucha profondément le druide, qui, insensiblement, se laissait circonvenir par les idées plus calmes et plus nobles que ce tableau lui révélait. Un autre monde, une sphère nouvelle, s'ouvrait devant son imagination étonnée, et un sentiment jusqu'alors inconnu entrait profondément dans son âme. Il se sentit ému par la majesté simple de cette cérémonie. Le doute l'abandonna un instant. Le sourire d'ironie qui avait d'abord effleuré ses lèvres s'enfuit tout à coup, et quand on leva l'hostie consacrée, et qu'alors il vit tous les fidèles se courber par un mouvement unanime et incliner leur front vers la terre, quand au milieu de cette foule, il s'aperçut que lui seul était debout, levant sa tête blanche et sa haute taille, comme s'il eût voulu défier orgueilleusement la sainteté du lieu, il eut presque honte de lui-même et il s'inclina. Pialla s'était aperçue de ce mouvement, et quand elle se releva, elle saisit les mains tremblantes du vieillard. « Mon père, s'écria-t-elle avec une joie sainte, mon père, qu'avez-vous fait ?»« Ma fille, répondit le vieillard, ton Dieu est grand, l'homme est faible et petit, et puis, à quelque Dieu qu'elle s'adresse, la prière console et fortifie. » Pialla serra les mains du druide, et oubliant un moment le lieu où elle se trouvait, elle se reporta par la pensée aux temps heureux qu'elle avait passés à Kerlo, pendant que Holdewig y avait vécu, et son âme tout entière se retrempa dans ses souvenirs. Tout à coup, un grand mouvement se fit dans l'église et la foule entière s'ébranla, se précipitant à l'envi vers les issues. Pialla se sentit entraînée malgré elle. Elle suivit le torrent qui l'emportait et arriva à la porte extérieure au moment où le cortège des guerriers commençait à défiler. Pialat n'avait jamais quitté la cour du comté Rec. C'était la première fois que le spectacle de splendeur d'une cour barbare se déployait sous ses yeux. Elle appuya familièrement son bras sur celui du druide, et curieuse, elle regarda. Sans savoir pourquoi, elle se sentit troublée. Son cœur battait à se rompre, une sourde inquiétude donnait à son regard un reflet sombre et fixe, et parfois elle sentait de singuliers frissons courir le long de ses membres. Cependant, les guerriers passaient, un à un, devant elle, salués à l'intérieur par les cris enthousiastes du peuple, au dehors par les fanfares sonores des musiciens. À ce moment même, un frémissement courut parmi la foule qui s'agita. Les cris s'élevèrent plus violents et les fanfares éclatèrent plus joyeuses. Un guerrier s'avançait, donnant la main à une jeune fille, pâle et blonde, dont le regard s'abaissait, timide et recueilli, sous les regards ardents de la foule. À cette vue, Pialat pâlit affreusement. Elle ferma les yeux, croisa ses deux bras sur son cœur par un geste plein d'un violent désespoir, et s'affaissa évanouie sur la poitrine du vieux druide. Dans ce guerrier qui passait le front joyeux, le visage éclatant, elle avait reconnu Chlodovig le franc. Un prêtre venait de l'unir pour jamais à la chaste fiancée qu'il aimait de toutes les puissances de son âme. Pialat perdait sa dernière illusion, son dernier et suprême espoir. Il ne lui restait plus rien au monde que Dieu.